Chapitre 46. 6 novembre 2010. Ça l'avait fait rire, Colette. En tout cas, elle m'en avait parlé en riant. Agnès, on est tous contaminés. Comme à Tchernobyl, mais en moins grave. Enfin, je crois. Mais tu te rends compte? Le parcours de santé de Guenion est radioactif. Je me souviens de ce parcours sur lequel je faisais des footings avec Lies, à côté du stade. Le stade Jean Laville a été inauguré le 14 juillet 1939, juste avant la guerre. Ce qui est complètement fou, c'est qu'il jouxtait une usine de traitement de minerais, dont de l'uranium, qui a été en activité de 1955 à 1980. Le sol, sur lequel sont bâties certaines tribunes et le parking, contient des déchets radioactifs. 12 hectares ont été contaminés, sans parler de la rivière qui coule entre l'ancienne usine et le stade. Depuis l'année dernière, des travaux d'enfouissement de la pollution radioactive sont menés, aux frais d'Areva. Aux frais de la princesse, ironise souvent Nathalie quand on la branche sur le sujet au journal. Et comment s'appelle cette princesse? Les contribuables! Mais ce n'est pas ce qu'en avait retenu ma tante. Pour elle, radioactif ou pas, c'était dans ce stade, dans une de ses tribunes, qu'elle avait ressenti et sans doute vécu les moments les plus forts de sa vie. « Bien sûr, avait-elle dit à Louis Berthéol quand j'avais une dizaine d'années, il y a la musique de mon frère, mais quand le FCG joue, je tremble comme une feuille. » Je lui avais demandé, légèrement exaspérée, « Pourquoi tu trembles comme une feuille ?» Elle avait paru surprise que j'intervienne, moi qui ne lui posais jamais de questions. Puis m'avait répondu, « C'est comme un grand feu de joie à la Saint-Jean. T'as déjà vu un feu de joie ?» J'avais hoché la tête pour mettre un terme à cet échange, puisque, à 10 ans, le jeu, c'était de lui parler le moins possible. « C'est pareil, mais dans tout le corps », avait-elle ajouté sans exaltation, comme si elle avait dit « Passe-moi le sel ». J'avais à nouveau fait oui de la tête en lui tournant le dos et en pensant « Putain, en plus d'être chiante et d'avoir une maison qui pue, elle est toc-toc ». Je suis seule dans le noir, mon urne à la main, et je me dirige vers le stade. J'ai vu ça au cinéma, mais jamais dans la vie. Il bruine, mais il n'y a pas de vent. Où vais-je disperser les cendres? Où est-ce que ça aurait un sens pour elle? Je m'apprête à écouter la suite de l'enregistrement qui concerne Aimé. J'ai glissé la cassette dans un Walkman. Un vrai, un auto-reverse. Un modèle comme ceux qu'on avait, adolescent. C'est Hervé qui l'a déposé sur le paillasson de la maison des Fredins. Avec ce mot, « Comme ça, tu pourras écouter les cassettes de ta tante en marchant. Gros bisous, Hervé. » Pour me donner du courage et l'entendre, j'appuie sur « Lecture ». Sa voix dans mes oreilles, l'immensité du stade plongée dans l'obscurité autour de moi. Le fantôme de Colette m'accompagne-t-il? Danse-t-il autour de moi? Papa, maman, Blaise, Mokhtar, Blanche.
J'ai revu le sourire d'Aimé à 19h le même soir. Il devait encore faire 40 degrés dans les rues. Et je ne savais rien de rien. À 30 ans, je ne savais pas m'habiller. Je ne savais pas ce qu'il fallait amener comme cadeau. J'avais appelé Jean, mais il en savait encore moins que moi pour les usages. Alors il m'a passé ta mère. « C'est Colette, elle a une question. » Anna m'avait demandé « Vous serez combien ?» J'y avais pas pensé. « Mais oui, combien on serait chez lui ? Tous les deux ou avec d'autres personnes ?» C'était l'anniversaire d'Aimé, sans doute qu'il avait organisé une fête. « C'est toujours bien d'apporter une bouteille », m'avait conseillé Anna. « Une bouteille de vin ou du champagne. » Et puis pour le cadeau, s'il a 18 ans, tu choisis un disque chez Madame Bedin. Un 45 tours ou un 33 tours. Ou bien deux 45 tours, ça dépend combien tu veux dépenser. Mais quel disque? J'ai demandé en panique. Dis à Madame Bedin de te donner les plus gros tubes de l'année. D'accord.
Madame Bedin possédait le plus beau magasin de Guenion. Elle vendait de la décoration et au fond des vinyles. Des rayons entiers de vinyles, dont tous ceux enregistrés par papa et maman. Ils étaient tous là, sur la plus haute étagère.
« Et comment je m'habille ?» j'ai demandé à ta mère. « Va chez Cosard, monsieur Sous s'en saura. Comment tu sais qu'il s'appelle Monsieur Soussan? Et Madame Bedin, pourquoi tu la connais, Anna? Elle m'a répondu en riant, parce qu'on va chez eux tous les 24 décembre depuis que je suis mariée à ton frère. Ah oui, c'est vrai ça. Merci, Anna. Elle a encore ri. Elle riait, ta maman. Elle riait souvent. Pour rien, pour tout. Je l'aimais fort, tu sais. Jean l'aimait. Il l'aimait à sa manière, depuis son monde, mais il l'aimait. Je suis pas allée chez M. Soussan. J'ai retrouvé une robe. Une vieille robe, mais comme j'ai jamais pris un kilo depuis l'âge de 18 ans, peut-être même 16 ou 17, elle m'allait encore. C'était une robe d'été que Blaise m'avait offerte. Elle se boutonnait par devant. J'allais pas acheter une robe. J'allais pas à un mariage tout de même. Par contre, Madame Bedin m'a conseillé Daddy Cool de Bonnet M et Dancing Queen du groupe ABBA. Jamais entendu parler. Mais elle m'a dit connaître les goûts des jeunes gens qui achetaient leur musique chez elle. Et surtout, Mademoiselle Septembre, s'il les a déjà, dites au garçon que je lui changerai. Elle a cru que j'allais à l'anniversaire d'un enfant, pas d'un footballeur de 18 ans. Je sais pas pourquoi, je lui ai aussi pris une poubelle de table. Madame Bedin m'a demandé s'il fallait faire un paquet cadeau ou si c'était pour moi. J'ai pas osé répondre que c'était pour offrir au garçon. J'ai dit que c'était pour moi. Et je l'ai emballé moi-même. Il était seul, Agnès. Je m'attendais à trouver toute l'équipe du FCG pour fêter son anniversaire. Le coach, certains joueurs, sa famille. Tout de suite, j'ai dit « Vous attendez combien de personnes ?»« Personne d'autre que vous », il m'a répondu d'un air détaché, comme si c'était un détail. « Je vais faire réchauffer une boîte. Mais je suis passée à la pâtisserie et j'ai acheté du champagne. Je l'ai choisi au hasard, je bois jamais. » « Moi non plus », j'ai répondu. « De l'eau, ça ira. »« Ça ira ? » ?»« Mais quand même, j'ai 18 ans aujourd'hui. Je suis majeure, adulte. » Il a plongé ses grands yeux noirs dans les miens. J'ai dû bafouiller. « D'accord, bien sûr, si ça vous fait plaisir. » »« Je suis content que vous soyez venue, Colette. » Il m'a dit cette phrase comme s'il la chantait. Qu'il était joyeux, léger. Il était tout le contraire sur le terrain. Comme tous les grands joueurs, la moindre action était une question de vie ou de mort. Il était grand, je sais, je l'ai déjà dit, mais c'était un géant. Et moi, une toute petite chose face à lui. Si je l'avais serré dans mes bras, ma tête se serait posée au niveau de sa poitrine, de son cœur.
Je me souviens d'Aimé Chauvel. Un jour, je l'avais croisé en faisant des courses chez les parents de Liesse. Comme d'habitude, j'avais tendu la liste griffonnée par ma tante sur un bout de papier. Aimé était entré. Je dirais qu'il avait environ 30 ans. Moi, j'étais ado. C'est vrai qu'il était particulièrement beau. J'ai rougi quand il m'a salué, parce qu'il connaissait mon prénom.
Il a ouvert un placard. Il en a sorti des cacahuètes qu'il a mises dans un bol banania et deux verres à moutarde pour boire le champagne, en s'excusant de posséder que ces verres-là. « Mais si vous voulez, je descends au café Tillet pour demander des coupes. » Sur l'un des deux verres, il y avait une image de Popeye, sa pipe à la bouche. Avant de m'inviter à m'asseoir devant une table basse, il a ouvert une dernière porte pour me montrer une boîte de raviolis, une de cassoulet et une autre de couscous rangée près des couverts. « Qu'est-ce que vous préférez, vous ? On choisira tout à l'heure ?»« D'accord, » j'ai murmuré. Tu penses que j'avais pas faim du tout? Et puis, il devait faire 40 degrés chez lui. J'ai regretté d'avoir mis cette robe qui collait à ma peau. J'avais toujours les vinyles et la poubelle de table dans les mains. Il a ouvert la bouteille et il a crié joyeusement parce que la moitié du contenu est tombée par terre dans le fracas épouvantable du bouchon qui a fait exploser une ampoule au plafond. Je l'ai aidé à essuyer avec du papier toilette. Il n'avait aucun torchon ni chiffon. Il laissait sécher sa vaisselle sur l'évier. Son linge et son deux pièces étaient lavés une fois par semaine par les cafetiers du dessous. C'était compris dans le loyer. On a changé l'ampoule. Le soleil brûlait encore les murs. Je lui ai proposé de tout ouvrir pour faire des courants d'air. Il serait encore chaud une ou deux heures. Mais après, forcément, l'air se rafraîchirait. En disant cela, je me suis dit que de toute manière, dans 2 heures, je serais rentrée chez moi et que...
J'arrête la lecture de la cassette. Je rêve ou quelqu'un vient d'effleurer mon épaule. Derrière moi, une ombre. Je pousse un cri d'effroi. Apeurée, la personne qui vient de me toucher fait un bond en arrière. « N'aie pas peur. Oh, je t'ai fait peur. Oh, pardon, pardon. » Je reconnais sa voix dans l'obscurité. « Mais nom de Dieu, Louis, où tu étais ? Tu vas finir par m'expliquer ? Et puis ce n'est pas le moment de réapparaître, là maintenant, à 6 heures du matin au stade, putain ! Je te demande pardon, Agnès. Je reviens de Lyon et en passant devant le stade, j'ai reconnu la voiture jaune de Liesse sur le parking. J'ai trouvé ça bizarre. T'as trouvé ça bizarre ? Mais dis-moi, Louis, tu ne penses pas que tout est bizarre depuis 15 jours, hein ? Tu trouves pas tout bizarre ? » La digue cède. C'est ainsi qu'on dit. Je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps. C'est ainsi qu'on dit aussi. Toutes les larmes de mon corps. C'est maman qui utilisait cette expression. Louis reste à distance, il n'ose plus m'approcher. Où tu étais ? Il hésite à répondre, passe d'un pied sur l'autre. J'ai essayé de retrouver le père de Blanche, mais j'ai perdu sa trace à Valence. Et après, je suis passé par Lyon pour me recueillir sur la tombe de tes parents. Le père de Blanche ? À Valence ? Tu sais comment il s'appelle ? Son nom de naissance, c'est Soutkovski, murmure-t-il, comme si l'intéressé pouvait nous entendre. Yevgeny Soutkovski, précise-t-il. Je suis abasourdi. Comment tu le sais ? J'ai surpris une conversation entre Colette et Blanche un jour. Blanche vivait déjà chez ta tante, je réparais sa machine à laver pour la énième fois, une saloperie qui n'a jamais marché. Elles ont dû oublier que j'étais dans la pièce à côté. « Regarde !» a crié Colette à Blanche. « Regarde, on parle de lui dans le journal !» Colette a lu l'article en articulant bien. C'était dans un magazine qu'une de ses copines avait récupéré dans une salle d'attente. Le magazine en question, c'était un nouveau détective d'août 2003. Je me souviens de la couverture, une photo de Marie Trintignant qui venait d'être assassinée. Toute la France était sous le choc. Quand elles ont découvert l'article sur Soutkovski, le magazine datait d'un peu moins d'un an. Tu crois qu'il est vivant ?
Ouais.
Pourquoi tu pensais le trouver à Valence ? Je l'entends renifler. Un an avant la mort de Colette, je veux dire, sa vraie mort, j'ai décidé de rechercher cet homme. J'ai trouvé un flic, un privé, à Mâcon, mais ça n'a rien donné, à part me coûter les yeux de la tête. Et puis, on vient de retrouver une femme à Valence, sûrement assassinée par son voisin, un certain Victor Socha. C'était son amant. La police a donné une photo de Socha à un journal, le privé l'a reconnue. La photo avait été prise par la victime avec son téléphone portable. Le fameux Socha, c'était pas Socha.
Quoi ?
C'est Soutkovski. Il est parti du jour au lendemain après que sa maîtresse a été retrouvée morte. Les bras m'en tombent. Les cendres manquent de se fracasser. Je rattrape l'urne in extremis.
Qu'est-ce que c'est ? Demande Louis.
C'est Tata, enfin ma tante. Une partie, petite, quelques cendres. Les autres seront déposées près de papa et maman à Lyon. Cette fois, c'est Louis qui éclate en sanglots. Quelle situation, tous les deux dans le froid, la nuit et la bruine, au milieu du stade, l'un près de l'autre. Mon casque de Walkman autour du cou, l'urne serrée contre moi. Je n'aurais jamais osé mettre cette scène dans un de mes films. Surtout qu'il n'y a pas de lumière. Et le jour refuse obstinément de se lever. Je n'ose pas demander à Louis de partir. Pourtant, je voudrais être seule. J'ai besoin de vivre ce moment seule. Néanmoins, je meurs d'envie qu'il me raconte l'article, et Blanche, surtout Blanche, et qu'il me montre la photo du vieux Soudoro. Tu rentres chez toi, Louis ?
Oui.
Et tu vas rester cette fois ?
Oui, pour toujours.
Je fais ce que j'ai à faire et je passe boire un café.
D'accord, bafouille-t-il en posant la main sur l'urne. Je t'attends.
Il s'éloigne, mais je me mets à crier. Tu penses qu'il y a un endroit où elle aurait voulu reposer sur le terrain ? Il marque un temps d'arrêt, puis je l'entends revenir en prononçant des noms d'équipe comme s'il visionnait une succession de matchs dans le petit jour. La plus grande victoire de Guignon,
celle qui l'a emmené au Stade de France, c'était les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Le match Strasbourg-Guignon. Notre équipe a gagné 2-0 le 19 février 2000. Xavier Collin a marqué le dernier but. Là. D'un geste, il me désigne une cage. J'ai cru que ma Colette allait passer l'arme à gauche. Comme d'habitude, elle n'a pas crié. Rien. Nada. Debout. Droite. Blanche comme neige, les poings serrés. Une petite fierté dans les yeux. Et son sourire que jamais personne n'a compris. Elle avait deux sourires, Colette. Celui de la tristesse et celui de la joie. Mais on ne savait jamais lequel elle nous servait. Le 3 avril, on a joué contre le Red Star. Pas ici, dans un autre stade. On a pris le bus avec Colette et tous les supporters qu'on pouvait compter à l'époque. On a fait 2-2. On est allé au tir au but. Faut te mettre à notre place. Imagine notre cœur comment il dérouillait. Un but, deux buts, trois buts, quatre buts. Et chaque tir était arrêté par notre gardien et par celui de l'équipe adverse. Dernière chance, notre goal, Richard Trivino, bloque le tir du Red Star. Et le même Richard Trivino sort de ses cages, tire le dernier pénalty, le gardien adverse n'arrête pas le ballon. Et bing ! En pleine lucarne. Guignon gagne 9 à 8. Ce coup-ci, quand on a compris qu'on allait en finale, Colette, elle a poussé un cri. Un drôle de cri, comme celui d'une bête prise au piège. Un truc aigu. Et puis plus rien. À nouveau debout, droite, les poings serrés. Même plus blanche, transparente qu'elle était. Je serre l'urne contre moi comme je n'ai jamais serré Colette dans mes bras dans la vraie vie. En chair et en os, dans une de ses robes flottantes. Sinon, il y a la première fois, souffle Louis. La première fois ? La première fois qu'elle est venue ici, au stade, pour assister à un match. Le jour où elle s'est, pour ainsi dire, mariée avec le ballon. À tout à l'heure. Et il disparaît dans la nuit. Les ballons, ceux de certaines victoires, ont-ils une âme ?